CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Soyez doux et patients envers les autres ». Et aujourd'hui, c'est Gwen qui nous apporte la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons notre premier quiz de l'année 2019. Allez, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs.
Bonjour Evelyne.
Bonjour Evelyne.
Vais-je devoir être douce et patiente avec vous pendant le quiz ?
Certainement.
Certainement, voilà, une parole de vérité, en tout temps également, tout à fait. Et vous, serez-vous patient les uns envers les autres ?
Ah, mais on verra. C'est une résolution pour l'année 2019, mais si on l'est déjà, on prend la résolution de continuer.
Tu parles de toi-même. Apparemment, ils ne se sont pas concernés par cette émission. Nous allons éprouver, en tout cas, tout ce que vous direz en début d'émission sera éprouvé en fin d'émission dans le quiz. Donc, je veux juste vous prévenir, si vous voulez faire des aveux, ce sera le bon moment. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Patient comme votre Père Céleste ».
Tout à fait, ma chère Yveline. Patient comme notre Père Céleste. Et nous voulons être patients comme notre Père Céleste. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3,9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance ». Et on comprend à travers ce verset que la patience de notre Père Céleste, elle a pour but le salut d'un plus grand nombre. Et oui, la patience, c'est salutaire. S'il n'usait pas de patience, beaucoup périraient. Alors oui, la patience que nous avons à l'égard de ceux qui traînent la patte, de ceux qui sont faibles, de ceux qui ont de la difficulté dans leur marche chrétienne, cette patience, elle est salutaire, elle peut les sauver. Et on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont même quitté leur assemblée, qui ont même abandonné la foi suite à des blessures. Et parce que des fois, on a manqué de sagesse en leur parlant. Au lieu de les exhorter, au lieu de les encourager, on a eu des paroles dures. Et cette parole qu'on peut leur donner, elle est salutaire. Si on est patient envers eux, si on est doux envers eux, on va les amener au salut. Un chrétien mature est une personne qui sait encourager. Et on l'oublie si souvent. Il y avait dans le livre des Actes, on voit un lévite qui s'appelait Joseph et que les apôtres avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Et on veut avoir un beau surnom comme celui-ci. Nous voulons être de ceux qui exhortent et non qui découragent. Nous voulons être de ceux qui compatissent et non qui jugent. Nous voulons être de ceux qui édifient et non qui détruisent. Et nous voulons être de ceux qui relèvent et non qui condamne. Proverbe 15:1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » De même que la patience est salutaire, une parole douce aussi est salutaire. Avec une parole douce, on peut amener quelqu'un au salut, comme avec une parole dure, on peut l'amener à s'égarer ou à s'endurcir. On connaît ce verset qui dit que le fer aiguise le fer. Et on peut le comprendre aussi dans ce sens-là, qu'une personne pourra être égarée, pourra abandonner la foi, pourra être blessée à cause d'une parole dure. Et voici un merveilleux conseil que Paul va donner à Timothée. 1 Timothée 5:1 ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, on comprend aussi, exhorte les femmes âgées comme des mères, exhorte celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc exhorter, c'est édifier. Et la Bible dit aussi que tout se fasse pour l'édification du corps. Et c'est tellement important. Et maintenant, on peut observer aussi les paroles du Seigneur Jésus à l'égard de personnes qui n'étaient même pas sauvées. Il dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus. » Voilà une parole encourageante. Il dit à Simon, le pêcheur insignifiant, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il dit à Zachée, le cupide, il lui dit, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que de paroles douces et encourageantes de la part du Seigneur. Et c'est notre modèle, on devrait marcher de la même manière. Qui ont finalement donc été un investissement dans le salut et dans la destinée de ces personnes qu'il a pu rencontrer. User de patience envers quelqu'un, c'est investir sur sa destinée. Et on voit que les apôtres ont investi sur la destinée de Barnabas en le surnommant fils d'exhortation, puisqu'après il va devenir l'homme de Dieu qu'on peut découvrir dans les Actes. Votre mission est la même que celle du Seigneur, que le Seigneur a commencé, et on la trouve dans Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, lorsque nous sommes envoyés comme la lumière dans ce monde, auprès de nos frères, auprès de ceux qui sont plus faibles, auprès de ceux qui ont des difficultés dans leur marche, auprès de ceux qui même traînent toujours avec le même péché, Dieu nous a envoyés non pas pour les juger, mais pour les sauver, pour avoir des paroles douces, pour avoir des paroles qui encouragent. Alors, dans toute forme de leadership que Dieu nous donne, pasteur, frère dans la foi, père spirituel ou je ne sais, soyons patients et doux jusqu'à voir le salut et l'affermissement de nos bien-aimés.
Mmh. Amen. Merci beaucoup, Gwen. Et c'est tellement important de savoir dire les choses de la bonne façon. Moi, personnellement, je sais que si je suis au Seigneur aujourd'hui, c'est parce que mon pasteur de l'époque a été vraiment patient envers moi. Il y a des choses dans ma vie avec lesquelles je n'arrivais pas à renoncer pour me donner pleinement à Christ. Je n'ai pas été chassée de l'Église à cause de ça. On m'a par contre toujours dit la vérité. On m'a toujours dit ce qui n'allait pas dans ma vie et ce que je devais changer pour que ça fonctionne. Et ça, c'est une nuance très importante. La patience et la douceur, c'est pas juste dire aux gens les caresser dans le sens du poil dans leur erreur, mais on ne m'a pas non plus chassée et on n'a pas été dur avec moi. On a été patient jusqu'au jour où j'ai été capable de prendre la bonne décision pour me donner complètement à Christ. On va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dans ce verset, on voit qu'il n'y a qu'une seule phrase qui, on pourrait le croire, dit des choses un petit peu contradictoires, de supporter les faibles, d'user de patience avec tous, mais on nous dit qu'il faut avertir ceux qui vivent dans le désordre. Donc on peut dire, ben, ça va, ça s'oppose, mais pas du tout. On voit qu'il est possible d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, donc de reprendre un frère ou une sœur qui vit dans le péché, par exemple, avec douceur, avec patience, et puis en supportant les faibles, comme il l'a dit dans ce verset-là.
En fait, on est dans 1 Corinthiens 13, hein, ouais. C'est l'amour ici. L'amour qui supporte tout, mm-hmm. L'amour qui est patient et l'amour qui dit la vérité aussi. Et quand on est rempli d'amour envers quelqu'un, ben on va lui dire, là, ce que tu fais, ce n'est pas correct. Il y a un problème, attention, la voie sur laquelle tu es est dangereuse, mm-hmm. Et elle mène au gouffre.
C'est ça, par amour et par jugement.
C'est ça, donc c'est par amour qu'on va corriger, qu'on va reprendre, qu'on va avertir. Et non pas pour casser et détruire, mais au contraire pour relever, restaurer. Et de la même manière, c'est par amour et bien qu'on va user de douceur et de patience envers tous.
Oh que oui.
Et voilà. Bon, si personne ne veut parler, je continue.
Ok.
Laisse la parole à Jérémy, c'est pour ça.
Non, faut jamais laisser la parole à Jérémy.
Soyez patient, je parlerai.
C'est ça. C'est bon. Enfin, de discussion, il me prendra la parole.
Oui, sur l'Ancien Testament. Amen. Et puis, je voulais parler par rapport à la patience, Evelyne, à la dimension de nos enfants. Parce que je crois qu'on est plusieurs, on est des parents, on attend, ces enfants sont rendus plus grandes, mais je crois qu'il a fallu qu'ils soient patients vis-à-vis de elles et doux vis-à-vis de elles dans toutes sortes de circonstances. Moi, ils sont plus petits, il faut parfois que je sois très patient. Hallelujah! Et le Seigneur m'aide parce que des fois, c'est éprouvant. Mm-hmm. Et puis, ça va vraiment, ça l'a... nos enfants, on est vraiment le modèle de Jésus pour eux. Premièrement, on est supposé en tout cas. Puis dans toutes les circonstances, dans des situations, parfois, tu as envie de te dire, mais pourquoi tel truc? Pourquoi tu as fait ça? Mais vraiment, c'est vrai, la parole nous exhorte à être patient et doux, même vis-à-vis de nos enfants, malgré qu'on doit les reprendre, évidemment, et tout ça. Mais c'est la dimension de la patience vis-à-vis de nos enfants. Peu importe l'âge qu'ils ont, parfois, il faut être patient dans l'attente de leur salut.
C'est
parfois, il faut être patient. Il y a toutes sortes de dimensions et de niveaux, hein, mais c'est tellement important de se le rappeler. Je suis supposé être l'image de Jésus auprès de mes enfants. Et qu'est-ce qu'ils voient en termes de douceur et de patience? Est-ce que c'est vraiment le reflet de Jésus? Est-ce que c'est le reflet que je veux leur donner? Mm-hmm. Et puis, à ce niveau-là, moi, ça me parle beaucoup, hein, parce que je me rappelle.
Concernant ce que tu dis, là, par rapport à la patience pour les enfants, la Bible nous dit que de ne pas irriter nos enfants, de peur qu'ils ne se découragent.
Oui.
Et moi, ça me parle parce que si une personne se décourage par rapport à la foi... parce qu'elle ne se sent pas justement portée, elle sent qu'il y a toujours de l'opposition. Et c'est la même chose que pour ce verset-là. Quand on a une parole qui est dure et on ne sait pas encourager, les personnes peuvent se décourager. Et le vrai problème, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre là. Le vrai problème, c'est qu'ils se découragent dans la foi. Mmh. Il faut toujours cultiver le salut des personnes. Il faut toujours cultiver leur destinée. Quand on a des gens dans l'Église qui traînent la patte ou qui sont en arrière, plutôt que... oui, c'est vrai, ils ont besoin des fois d'être recadrés d'une certaine manière et puis il faut les exhorter. Mais c'est surtout qu'il faut avoir en tête, là où on en est, quand on a cette position, comme je disais tout à l'heure, de leadership, mais entre guillemets, on doit avoir en tête leur salut, leur destinée. Ces personnes doivent entrer dans leur salut et elles doivent entrer dans leur destinée. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va impacter, et avec nos paroles, on peut proclamer la vie comme on peut proclamer la mort. Tu sais, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça concerne aussi nos encouragements, ce qu'on va dire aux gens, ce qu'on va dire aux frères. Ouais. On a vu tellement de gens qui ont été blessés avec une parole, qui ont tout abandonné.
Mais c'est important de dire la vérité. Je nuance ça juste parce qu'on peut croire que la douceur, c'est parler avec une voix douce. Puis non, mais c'est pas grave, mon frère. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Dieu t'aime toujours. Oui, voilà. Dieu t'aime toujours.
On peut être doux et ferme.
Doux et ferme, exactement. C'est la nuance qui est quand même importante à avoir. Il y a quand même, il faut dire la vérité avec douceur, c'est avec de l'amour comme motif, comme motivation, c'est l'amour en fait.
C'est la main de fer dans un gant de velours.
C'est ça. Je n'aurais pas dit mieux.
Ouais, c'est puissant. Et je pense même, excuse Aurélie, par rapport aux frères dans l'église, je me dis parfois, on est vite à juger parce que toi, t'es rendu à un certain niveau dans ta foi. Tu dis, mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais
et
ça? Pourquoi t'agis comme ça?
D'où on vient?
Tu peux pas jouer le rôle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui va le façonner en son temps aussi. Il faut être patient à ce niveau-là aussi.
Et moi, j'aimerais aussi encourager les personnes à être patientes envers elles-mêmes. Parce que trop souvent, on est parfois dur avec soi-même et ça décourage. Comme on a dit, il faut s'auto-exhorter aussi. Parce qu'il y a des personnes comme ça qu'à cause du fait qu'elles soient trop dures envers elles-mêmes, peut-être qu'il y a un caractère qu'on essaie de travailler. Il y a des choses qu'on ne veut pas avoir. Comme on a dit, le but n'est pas de se complaire dans la situation, mais c'est de s'exhorter aussi, de se dire « je vais y arriver » et de le prendre pour nous aussi, oui, pour les autres qui sont autour de nous. Mais la patience s'applique aussi à nous, la douceur s'applique aussi à nous-mêmes. Pas parce qu'on est égocentrique, non, mais vraiment parce que si on ne l'a pas pour nous-mêmes, on ne pourra pas le donner aux autres. Mm-hmm. Si on se traite durement déjà, si on est trop dur plutôt envers soi-même, on sera d'office dur avec les autres. C'est aussi d'appliquer à nous-mêmes par rapport à nos choix, par rapport à nos défis et par rapport aux situations qui se présentent devant nous.
Il y a le mot supporter qui marche dans les deux sens. Hein. Quand on dit supporter les faibles, des fois on peut avoir l'impression où on ne se supporte plus. Des fois on a l'impression que se supporter, c'est vraiment s'endurer ou accepter l'autre comme il est. Bon, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais c'est surtout supporter dans le sens porter, soutenir. Et c'est ça l'encouragement. L'encouragement, c'est être ce pilier en disant « tu peux compter sur moi, je suis là pour te soutenir, te supporter ». Et non pas supporter dans le sens « encore qu'on le supporte ».
Voilà.
Et David disait dans les psaumes, il disait dans l'Ancien Testament,
enfin, c'est ça.
Il disait, il remerciait Dieu et il disait, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et maintenant que je suis humilié, je suis en train de suivre la bonne voie.
Et, c'est-à-dire qu'il faut humilier les autres ?
Non, mais il faut parfois arriver à un stade d'humiliation transformatrice, un message que j'ai prêché. Et en fait, quand on est nous-mêmes dans des difficultés ou éprouvés, nos bords s'adoucissent, se polissent. Et en fait, de dur qu'on était, après avoir été éprouvé, on est changé. Et on a vraiment besoin de ce ministère du Saint-Esprit pour nous changer, comme l'apôtre Paul le disait. Il dit auparavant, j'étais un homme emporté, mais maintenant, il était extrêmement doux. Comme la Bible dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et le ministère du Saint-Esprit en nous est parfois à travers les épreuves où on est humilié. Et avant ça, on s'égarait, on était plein de colère, plein de méchanceté, tout le temps à piquer les gens, à blesser les gens. Mais quand on est humilié et brisé, ça nous change, ça nous transforme. Sa présence, elle veut nous changer, elle veut nous transformer. Et je veux encourager quelqu'un qui est dur, qui est piquant constamment et qui blesse les autres, à se laisser modeler par ce merveilleux Saint-Esprit, ouais, à travers les épreuves, il nous forme, il nous change et il fait de nous des hommes et des femmes qui sont doux et douces.
À noter que Jésus n'a jamais eu de paroles dures envers... quand il a eu des paroles dures, c'était envers des rebelles et envers, oui, des religieux.
C'est vrai.
Mais envers la femme adultère, il lui a dit, mm-hmm, « Va et ne pêche plus », c'est un avertissement. Mais c'est une parole douce. Il dit aussi, « Où sont ceux qui te condamnent ? Je ne te condamne pas, moi non plus. » Mm-hmm. Donc on doit être comme le Seigneur.
T'as raison.
Oui, moi je rejoins un peu la pensée de Jérémie, parce que c'est un thème avec lequel moi-même je lutte, hein, l'impatience. Je suis un grand perfectionniste.
C'est les défauts de la jeunesse.
Les aveux.
et c'est vrai que si ça peut aider ceux qui ont des soucis avec ça aussi, mm-hmm, qui sont un peu durs envers les autres, exigeants envers les autres, moi je remarque vraiment dans ma vie une différence quand j'ai passé du temps avec le Seigneur à commencer ma journée, le matin avec lui. Mm-hmm. Et je crois que l'humiliation dont parle Jérémie, la vraie humiliation, c'est quand on se retrouve dans la prière intime face à ce Dieu trois fois saint. On réalise à quel point il est tellement saint, il est tellement parfait, mais qu'il nous accepte quand même. Et en réalisant sa sainteté, sa grandeur, sa magnificence, souvent, je me retrouve presque tous les jours, finalement, dans une situation d'humiliation, je ne sais pas comment on peut le dire, ouais, mais en gros, je réalise à quel point je suis tellement imparfait par rapport à lui, mais que malgré tout, il m'accepte. Et du coup, ça m'aide à être plus patient, plus doux envers les autres. Mais quand je n'ai pas eu ce temps-là, souvent, la chair est... Bref, no comment.
Excellente conclusion à ce temps de discussion. On va continuer maintenant avec notre quiz.
Yes.
Et c'est parti pour notre quiz. Aujourd'hui, messieurs, madame, nous jouons pour un téléspectateur. On peut l'applaudir,
bravo,
s'il vous plaît.
Bravo, bravo, monsieur.
Monsieur Firmin Van Kenale de la France, qui est notre grand vainqueur. Félicitations, Firmin. On va regarder tout de suite ce que vous avez d'ores et déjà gagné.
Découvrez le livre de la semaine. Sur emciboutique.com.
Notre livre de la semaine, qu'Annabelle nous a si bien présenté l'année dernière, effectivement, l'année dernière, tout à fait. Merci Jonathan de suivre les jours de la semaine. Et nous allons donc commencer tout de suite. Est-ce que l'équipe bleue est prête?
Nous sommes prêts.
Oh.
Bonne année, bonne année, bonne année 2019.
Il y a même une musique qui va.
Les applaudissements.
Ah là 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 là.
Magnifique. Magnifique.
Est-ce que nous, on était avec le thème en douceur. On n'aurait jamais osé les enguirlander.
Ah, c'est bon ça.
Est-ce que vous, au lieu d'avoir honte pour eux, vous pourriez au moins faire semblant de rire? Je sais pas.
Bravo. Non, je sais pas. C'est un sentiment intérieur quand je les vois faire.
De honte.
Non, j'arrive pas à le comprendre.
Tu es content d'être rouge, hein?
Oui, c'est ça. Oui,
c'est ça que Jérémy disait, d'être humilié quotidiennement.
Oui.
Vous pouvez vous prendre les mains et chanter « Nous sommes unis ».
Non, non,
ça fait pour les rouges.
Dans la famille.
Pour les rouges.
Ils sont très forts en plus. En plus, on est toujours surpris. Hein.
On voulait, souhaiter la bonne année à tout le monde qui nous suit. Hein.
Génial, bonne année à
Je
vous
supporte
tous.
Les bleus.
Bonne année festive avec l'équipe bleue et l'équipe rouge.
Et l'équipe rouge aussi bad. Vous souhaite une bonne année, mais on n'a pas besoin d'accessoires pour souhaiter une bonne année.
C'est avec le cœur.
On dit bonne année à vous tous.
Bonne année à tous.
Bonne année.
Par contre,
nous aussi, on parlait en acte.
On ne peut pas accepter ce genre d'intimidation, ça va nous ralentir. Et...
Je sens une espèce de tension sur le plateau.
Non, là, les guirlandes, au moins la guirlande, je l'enlève.
Ça va plus les gêner qu'autre chose.
Tout est fait dans la douceur et dans la patience aujourd'hui. Et on commence tout de suite notre quiz avec le duel. Et donc, on allume les buzzers et on commence tout de suite avec la question numéro 1. Quel objet Gédéon a-t-il placé sur le sol?
Une toile. toison, quoi.
Une toison, bonne réponse, une toison. Donc, a-t-il placé sur le sol pour recevoir un signe de Dieu? Qu'est-ce qu'une toison? Parce qu'on a appris après cette expression dans le milieu chrétien. Oh, tu as posé une toison devant Dieu, qu'est-ce que ça signifie?
C'est ça,
une peau de poêle.
Oui, on a demandé, mais ce qui signifiait de demander un signe à Dieu. Ah. Voilà, merci. Merci.
J'ai un point, du coup.
Non, tu n'as pas de point, mais l'équipe rouge a un point. Gédéon donc avait demandé à Dieu de
Gédéon
mettre le nom de la rosée sur cette toison qui est une toile de laine. Merci Gwen pour ta pertinence. Question 2. C'est un vrai faux. Vous pouvez buzzer tout de suite et essayer. Hein.
Une chance sur deux.
Dans la Bible, il est mention d'une ânesse qui parle. Jonathan.
Vrai, l'ânesse de Balaam.
Exactement, qui lui a parlé pour le mettre en garde et lui dire de se réveiller. Question 3.
D'arrêter de la frapper.
Oui, c'est ça, de se réveiller. Je ne parlais pas de se réveiller, de son endormissement. Allez lire l'histoire. Question 3. Selon la Bible, où Jésus posera-t-il ses pieds lorsqu'il reviendra?
Sur le mont des Oliviers.
Sur le mont des Oliviers, bonne réponse. Donc l'équipe bleue, la guirlande.
Ça gêne, c'est
patient.
Buzz pas à votre place, il faut buzzer.
Ça les ralentit.
Question 4, bien que tout semble joué. Qu'a fait Paul immédiatement après avoir retrouvé la vue?
Il s'est fait baptiser,
bonne réponse. Décidément, l'équipe rouge est en feu. Nous terminons symboliquement.
Je trouve que c'est tellement beau.
Mais oui.
Ils ont fait... Oh. Vous n'osez pas bouger.
Ils veulent rien casser. C'est trop mignon.
Comme des enfants.
On l'admire. Bon, bah, équipe rouge, je vais
mettre le 2 janvier, on peut déjà enlever les décorations
c'est
du
vrai,
sapin. Hein.
C'est vrai.
Pour là, il y en a qui gardent plus longtemps.
Ah oui, bon, c'est la fête.
Question 5, c'est un qui suis-je? Souverain sacrificateur, gendre d'Anne. Oui.
D'Anne. Aaron.
J'ai prophétisé la mort de Christ et l'ai fait condamner. Après la résurrection, j'ai participé au jugement de Pierre et de Jean.
C'est Caïphe.
Caïphe, bonne réponse Aurélie.
Bravo,
et tu auras au
c'est
moins
la question la plus difficile.
Un point à l'équipe bleue. Bravo,
wow, allez, les bleus.
Bonne réponse. Wow. Malheureusement, les bleus ne remportent pas cette manche. Nous continuons tout de suite avec la concertation. Notre phase de concertation, il y a 2 thèmes au choix et comme vous avez remporté le duel équipe rouge, c'est vous qui pouvez sélectionner le thème. Nous avons le thème des rois qui serait quand même un petit peu d'actualité en ce mois de janvier ou les 12 disciples qui est notre nouveau thème. Les rois, les 12 disciples.
On peut prendre les rois pour l'enlever, non?
On peut prendre les rois pour l'enlever, dit Michael.
Les 12, on prend les 12 pour gagner.
Les 12.
Ah, mais ça dépend quelle liste.
Gwen, on prend les 12 pour gagner. Alors.
Allô, moi.
Alors, capitaine.
Capitaine Gwen.
C'est ça.
Vas-y,
on te suit.
Apparemment, ça
on prend les 12 disciples.
Égal. Les 12 disciples. Le thème des rois va donc être reconduit au prochain quiz.
Youhou.
Les 12 disciples. Donc, je vous rappelle que lors de la concertation, vous avez 15 secondes de concertation. On ne buzz plus. Et si l'équipe qui a la main ne donne pas la bonne réponse, l'autre équipe peut répondre. Donc, vous pouvez vous concerter des deux côtés en même temps. Question 1. Citez le prénom de 8 des 12 disciples qui étaient avec Jésus avant sa crucifixion. Concertation. Citez le prénom de 8 des 12 disciples. Vous pouvez répondre à 3 à cette question. C'est autorisé. Citez le prénom des 8 des 12 disciples qui étaient avec Jésus avant sa crucifixion à la maison. Vous pouvez essayer de répondre. Équipe rouge, on commence.
Pierre.
Oui.
Jacques.
Oui.
Jean.
Oui.
Jude.
Oui.
André.
Oui.
Philippe.
Oui. Vous pouvez les aider.
Judas.
Oui. Et un dernier.
Mathieu, Lévi.
Mathieu, bonne réponse. Félicitations. J'imagine que vous aviez la réponse également.
Très facilement.
Très facilement. Alors,
Difficile, c'est qu'on a 2 listes.
Voilà.
Des fois, on peut avoir un Barthélemy qui peut s'appeler autrement.
Nathanaël, exactement. Donc, on voit dans les évangiles que les mêmes noms n'apparaissent pas. On peut croire, y a-t-il une erreur? Y avait-il plus que 12 disciples? En réalité, c'est simplement des noms différents.
Comme donc, Simon qui s'appelle Pierre.
Voilà, Barthélemy était appelé Nathanaël. Jude était aussi appelé Thaddée. Tu as dit Marc, Matthieu, tu as dit Lévi, exactement. Simon le Zélote peut être appelé Simon le Zélé dans certaines versions, etc., etc. Mais il s'agit bien des 12 mêmes personnes. Un point pour l'équipe rouge. Équipe bleue, à vous la main. Quel disciple a été choisi pour faire partie des témoins de la résurrection de Jésus à la place de Judas ? Concertation, elle est très facile, celle-là. Quel disciple a été choisi pour faire partie des témoins de la résurrection de Jésus à la place de Judas ? Judas, donc, avait décidé de mettre fin à ses jours après la crucifixion de Jésus.
C'est Matthias.
Matthias, exactement. Matthias, dont on n'a plus vraiment entendu parler après.
Non. Alors, mais il
a certainement fait quelque chose.
Les autres non plus, on n'en a pas vraiment entendu parler. Matthieu.
Effectivement, effectivement. Donc, vous pouvez trouver cette histoire dans Actes 1, 23, où on voit qu'en fait, ils ont tiré au sort Matthias, croyant que Dieu allait guider leur choix de cette façon-là. Égalité, un point partout, équipe rouge. Quelle était la mission des 70 disciples que Jésus envoya ? Donc on revient dans les évangiles. La mission des 70 disciples que Jésus a envoyés, il y avait deux missions distinctes. Il y a deux choses différentes à citer. Quelle était la mission des 70 disciples que Jésus envoya, Gwen ?
Alors, guérir les malades,
oui.
Chasser les démons.
Oui.
Et annoncer la bonne nouvelle.
Annoncer la bonne nouvelle, exactement. Annoncer le royaume de Dieu. Bonne réponse. Luc 10, 10. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, il y avait vraiment ces deux missions différentes. Très bonne réponse. Équipe rouge, équipe bleue, à vous la main. Qui était avec Jésus lors de la transfiguration ? Elle est facile, celle-là aussi. Ils ont des questions faciles, l'équipe bleue. Hein.
Il y avait Moïse.
Élie et Moïse.
Nous parlons donc des disciples qui étaient avec Jésus lors de la transfiguration. Et non, de ceux qui sont apparus. Jérémy.
Pierre, Jacques et Jean.
Pierre, Jacques et Jean, exactement. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean et pas les autres ?
Jésus les avait choisis pour être un peu dans un trio VIP.
Wow.
On retrouve plusieurs fois avec Jésus.
Est-ce que c'est écrit dans la Bible le mot trio VIP ?
Non, mais dans mon prochain livre.
En exclusivité ! On trouve donc cette histoire dans Luc 9, 28 et 29. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Effectivement, il semblerait que ces trois disciples ont eu un privilège quand même que les autres n'ont pas eu à eux. Il voulait leur révéler quelque chose que les autres n'ont pas eu le privilège d'assister. Question 5, équipe rouge. Quels sont les autres sens du mot grec matathès qui signifie disciple, étudiant, élève, ami, prochain, serviteur, travailleur. Donc il y a deux réponses à chaque fois. Étudiant, élève, une réponse. Ami, prochain, deuxième réponse. Serviteur, travailleur, troisième réponse. Gwen, étudiant, élève, ami prochain ou serviteur, travailleur ?
Étudiant, élève.
Bonne réponse, exactement.
Vous savez ? Non, je ne savais pas. Non, parce qu'il dit, je ne vous appelle plus disciple parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître... je ne me rappelle plus
exactement. C'est plus serviteur, mais ami.
Je l'appelle ami. Mais je vous appelle ami.
C'est
oui.
Ça, mais...
Mais il utilise un autre mot.
Pardon, excusez-moi.
Étudiant, élève, c'est ça. Donc,
on a le point, c'est ce qui compte.
Le disciple, on voit que c'est celui, c'est comme un apprenti, ça peut aussi être traduit par apprenti, c'est vraiment celui à qui on enseigne quelque chose qui est en cours d'apprentissage, en fait. C'est ça, Jonathan ?
C'est ça, et le maître, le didascalos.
J'allais le dire.
Didascalos. didascalos, d'ailleurs. Hein.
Dernière question, allons-nous nous diriger vers une égalité équipe bleue ? Tout est entre vos mains. Question 6, qui était disciple de Jean-Baptiste et fut le premier des 12 à suivre Jésus ? Premier des 12 dont le nom soit cité du moins. Qui était disciple de Jean-Baptiste et fut le premier des 12 à suivre Jésus ? Ça nous amène au tout début des évangiles. Jérémy ?
André.
Bonne réponse, bonne réponse. Mmh. On trouve cela dans Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Mmh. Donc là, on ne connaît pas encore qui sont ces deux disciples. Mais au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et si on continue la lecture, on voit qu'il n'a plus jamais quitté Jésus. À partir de ce moment-là, il l'a vraiment suivi de tout son cœur et il n'a vraiment pas réfléchi deux minutes apparemment. Il a vraiment cru ce que Jean-Baptiste lui disait. Bon, nous avons donc une égalité. Nous allons devoir vous départager au buzzer. Ah. Qui fera la finale ? Sera-ce l'équipe des guirlandes de Noël ou l'équipe fade des rouges ?
Sobre, sobre.
Sobre, bah vous n'êtes pas très colorés aujourd'hui. Hein.
Parole dure excite la colère. Hein.
Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On allume les buzzers. Question donc de rapidité. Qui était le disciple dont la Bible dit que Jésus l'aimait ?
Jean.
Jean, bonne réponse, Michael ! Bonne réponse ! Alors, est-ce que cela signifie que Jésus n'aimait pas les autres disciples ?
Non, ça voulait dire simplement que Jean savait qu'il était aimé.
Oui.
Il se considérait comme étant aimé.
Exactement, il semblait en être assez fier.
Oui, mais il avait raison.
Il a raison, tout à fait.
Il parle beaucoup d'amour.
Exactement. Équipe rouge, c'est vous qui allez donc faire la finale. Ah, félicitations, oui. Vous
sans
allez
trompette.
Jouer.
Rouge, rouge.
Je sens juste, c'est un peu de jalousie qui ressort.
Ouais, c'est pas grave.
Non,
le rouge-gorge.
Il n'y a pas de jalousie sur ce plateau.
Non, non.
Seule la douceur et la patience.
Nous, on souhaite que l'auditeur, là, pour une fois,
Firmin. Exactement, monsieur Firmin, nous allons jouer pour vous et nous allons regarder tout de suite ce que vous allez peut-être gagner.
Recevez une collection de 3 livres. Tout pour qu'il règne de Oswald Chambers. Les comportements chrétiens de Jean-Marie Ribet. Smith Wigglesworth, apôtre de la foi, de Stanley H. Frotcham, et Baobila, un jeu de société chrétien de l'organisme CEL. Le tout d'une valeur de 80 euros.
Donc voilà, Firmin, ce que vous allez peut-être gagner.
On le souhaite.
On le souhaite, si l'équipe rouge remporte la finale. Vous avez vu qu'il y a un jeu de société cette fois-ci, petite nouveauté. Donc ce jeu de société, les villageois de Baobila. On peut afficher un petit visuel exactement pour voir le jeu de société. Donc en fait, c'est un jeu qui est proposé par le CEL France, un organisme qu'on a déjà présenté, Service d'entraide et de liaison, qui est donc un organisme qui soutient les chrétiens dans la pauvreté, avec lequel on peut parrainer des enfants dans le besoin. Et ce jeu, en fait, est un genre de jeu de rôle dans lequel on se retrouve dans la peau d'un villageois d'un village d'Afrique qui s'intitule Baobila. Et puis, en fait, on doit sortir de la pauvreté en s'alliant éventuellement, etc. Donc, c'est un jeu qui semble vraiment très, très bien fait et donc qui est offert par le CEL à notre téléspectateur si la finale est remportée. Donc, vous avez une double pression en plus. Et donc, ce jeu est disponible sur celfrance.org. Si vous voulez vous le procurer, il est en vente au prix de 40 euros. Voilà, vous savez tout pour ce jeu. Nous allons donc continuer maintenant avec la finale. Équipe rouge, plus besoin des buzzers, juste besoin de concentration, de calme et de patience. Nous allons donc commencer avec la finale. Gwen, tu seras le premier à répondre à la question, ensuite Michael, ensuite Jonathan et ainsi de suite. Vous avez un joker et n'oubliez pas que vous pouvez passer si vous n'avez pas la réponse tout de suite. N'hésitez pas à passer, la question reviendra à la fin. Équipe rouge, vous êtes prêts ?
Oui.
C'est parti, on commence. Non, tu n'es pas prêt, Jonathan ?
Si, c'est le capitaine qui doit dire.
D'accord.
Je dis oui.
Il a dit oui. Nous allons donc démarrer le chrono après la lecture de la première question. Gwen, lequel des évangiles fait référence à l'ange Gabriel qui apparut à Marie ?
Matthieu.
Mauvaise réponse. Michael, quel était le travail de Joseph, père de Jésus ?
Charpentier.
Bonne réponse. Jonathan, de quelle ville venaient Marie et Joseph ?
De Nazareth.
Bonne réponse. Gwen, dans quel pays se sont enfuis Marie et Joseph ?
En Égypte.
Bonne réponse. Qui, Michael, avant la venue de Jésus, prêchait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche »
Jean-Baptiste.
Bonne réponse. Jonathan, dans le Notre Père, que demande-t-on à Dieu de nous donner ?
Le pain quotidien.
Bonne réponse. Gwen, que représente le pain de la Sainte Seine ?
Le corps de Christ.
Bonne réponse. Michael, quel prophète fut descendu dans une citerne avec des cordes ?
Joker.
Jérémy.
Bonne réponse, Jonathan. Qu'ont fait les frères de Joseph pour se débarrasser de lui ?
Ils l'ont mis dans une citerne et après ils l'ont vendu.
Exactement. Gwen, qui a dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif ».
La femme samaritaine.
Bonne réponse. Félicite à
ça. Bien
joué. Bravo les
Bravo,
rouges.
Bravo les rouges. Vraiment, félicite.
Bravo. Bravo. C'est un plaisir pour nous de vous laisser gagner comme cadeau de bonne année.
Belle finale, bravo, ouais. Bravo. Alors, vous l'aurez bien remarqué, une petite finale qui faisait des petits clins d'œil à l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus.
Oui, c'était frais comme ça.
C'est ça, c'était frais, parce qu'on était dans Noël quand même. Et donc, la première question qui n'était pas facile, Gwen, lequel des évangiles fait référence à l'ange Gabriel qui apparut à Marie ?
Moi, j'aurais dit Luc.
Luc, exactement.
J'aurais dit Matthieu aussi.
Bonne réponse. Sinon, je pense que tout était OK, y a-t-il. Donc, dans quel pays, la question 4, je ne l'ai pas lue au complet, dans quel pays se sont enfuis Marie et Joseph après l'ordonnance d'Hérode de tuer tous les bébés en Égypte ? Tu as très bien répondu, Gwen. Bravo, bravo, Firmin. On se réjouit beaucoup pour vous. Vous avez une belle collection de livres, un super jeu de société avec lequel vous allez pouvoir jouer avec votre famille, vos amis, vos frères et sœurs d'église. C'est formidable. Vous êtes content ?
Parfait.
Super content.
Super. La famille d'Irlande est contente aussi ?
La famille d'Irlande.
On est trop content.
Oui.
On est festif.
J'espère que vous n'avez pas cassé les oreilles de nos téléspectateurs. En tout cas, c'était encore un très beau quiz, rempli de douceur et de patience. Bravo, bravo à tous, félicitations.
Merci.
Et à la maison, j'espère que vous aussi, vous avez expérimenté la douceur et la patience pendant ce quiz, mais surtout que vous allez l'expérimenter tout au long de cette année. Je vous rappelle le thème de cette émission, qui était l'importance d'être doux et patient avec les autres. Donc j'espère que ce sera notre partage à tous tout au long de cette année 2019. Je vous souhaite encore une très bonne année, je peux encore vous le dire pendant quelques jours, je me le permets. Et on se retrouve demain, notre thème sera « Parents, protégez la foi de vos enfants ». Et nous aurons la rubrique « Culture et médias ». Pasteur, j'ai une question. Ne manquez pas cette très belle émission. Merci à vous tous, chers candidats. À demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de « Bonjour chez vous » sur emcitv.com.